douter. Amos au chapitre 4, c'est notre texte. J'ai des belles choses à vous partager. C'est beau parce que c'est la parole de Dieu. Quel privilège de pouvoir, semaine après semaine, ouvrir le plus grand des trésors avec le plus merveilleux des peuples, le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Content que vous soyez là. Ce qui fait la beauté du peuple de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui prend des gens de toutes sortes de situations, de toutes sortes d'arrière-plan, de culture, puis qui les unit en son Fils, en esprit et en vérité. C'est pas du fake, c'est du vrai. Gloire à Dieu pour ça, c'est son œuvre et c'est merveilleux. Et on a lu le chapitre au complet, on commence par la fin. Je vais juste lire le dernier verset parce que je vais m'en servir comme introduction pour ensuite vous partager les vérités sur... On va tout considérer les versets ensemble. Mais le verset 13 du chapitre 4 nous dit « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Et c'est la conclusion de ce chapitre où est-ce que vraiment Dieu met le paquet, il se révèle, c'est lui qui est l'Éternel, le Dieu incomparable, l'Éternel créateur et l'Éternel des armées, le grand vainqueur. Mais ça nous dit aussi dans ce verset-là qu'il fait connaître à l'homme ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça m'énerve là, parce que mon chose part au vent. Moi, je vais m'organiser. J'aime-tu mieux avoir chaud ou j'aime mieux avoir mes notes qui partent au vent? Ah, là, c'est parfait. OK. Il fait connaître à l'homme ses pensées. Avant de plonger dans le message et de prier, je veux juste vous amener l'idée ici que le thème du mois, c'est Christ, notre lumière. Et on va considérer aujourd'hui comment Dieu, en Jésus-Christ, est la lumière qui révèle nos pensées. Je vais vous expliquer comment avec ce texte, mais j'aimerais avant justement qu'on demande à Dieu qui illumine nos cœurs. Seigneur, c'est une prière biblique, c'est ce que Paul a prié pour les Éphésiens, que tu illumines les yeux de notre cœur afin qu'on comprenne l'héritage infini, merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. On sait aussi que tu es la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme. Parce que tout homme naît dans les ténèbres et ce monde est dans les ténèbres. Et Seigneur, on prie que s'il y en a qui aujourd'hui, leur cœur est encore dans les ténèbres parce qu'ils ne sont pas encore en vie spirituellement, mais qui sont morts dans leur offense et leur péché, on prie qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent du royaume de Satan à ton royaume et qu'aujourd'hui on célèbre la nouvelle naissance. Et qu'aujourd'hui aussi, Seigneur, ton peuple soit encouragé, fortifié en toi. Oui, on l'a chanté, Seigneur, tantôt, sonde-nous. Toi qui connais nos pensées, révèle-les à nous, Seigneur, la tromperie qu'on peut avoir. Et non seulement à matin, mais même avec ce qu'on va voir après-midi avec le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, fais ton œuvre dans chacun ici que tu as amené dans ta bienveillance, dans ta souveraineté. Toi, Seigneur, qui connais toutes choses et qui peut toutes choses, on s'en remet à toi. Au nom de Jésus. Amen. Christ, la lumière qui révèle nos pensées. Selon le contexte, quand on lit le verset 13, il dit « Il fait connaître à l'homme ses pensées. » C'est-tu Dieu qui fait connaître à l'homme ses pensées à lui en tant que Dieu, ou si c'est Dieu qui fait connaître à l'homme ses pensées? Je crois que selon le contexte, c'est Dieu qui fait connaître ses pensées à lui aux hommes. La Bible, c'est la révélation de qui Dieu est, de comment il pense, de ce qu'il fait. Puis d'ailleurs, dans ce sens-là, au chapitre 3, verset 7, ça dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, Dieu est celui qui révèle ses pensées. Et donc, selon le contexte, je crois qu'ici, c'est vraiment la question de la pensée de Dieu qui est révélée à l'homme. Mais savez-vous que par la force des choses, lorsque cette pensée divine nous est révélée, elle jette la lumière sur nos pensées. Parce que quand Dieu nous dit ce qu'il pense, automatiquement, on se rend compte, soit qu'on pense correct parce qu'on est en lien avec lui ou qu'on ne l'a pas pantoute. Donc, le fait que Dieu révèle sa pensée, ça jette la lumière sur les nôtres. Et juste pour ceux qui pourraient se poser la question, le verdict sur les pensées de l'homme, c'est quoi? Vanité. Le Seigneur connaît la pensée des hommes et sait qu'elles sont vaines. Et on l'a dans notre texte, on l'a vu. Au début, ça l'ouvre, hein? Il opprime les misérables, ils se pensent donc bon, ils disent à leur mari, apportez, buvons, on va regarder ça tantôt. On voit aussi que Dieu, il a châtié, puis il châtie de différentes façons, et à 5 reprises, dans les versets 6, 8, 9, 10 et 11, il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Ça aussi, on va voir ça dans un instant. Mais c'est clair, le verdict de Dieu sur la pensée humaine, c'est qu'elles sont vaines. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les hommes. Ça dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Donc, c'est clair, c'est en harmonie non seulement avec notre texte, avec l'ensemble de la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous révèle nos pensées, à nous, humainement, elles sont vaines. Dans les ténèbres, nous avons besoin d'avoir la révélation de Dieu, parce que sinon, on s'égare. Et tout ça pour dire ce matin que le Seigneur nous révèle les ténèbres de nos pensées, la vanité de nos pensées, si vous voulez, à travers lui, ce qu'il pense. Alors, tout ce qu'il dit, ça jette la lumière sur ce que nous, on peut penser. D'ailleurs, j'ai retenu à ce sujet Ésaïe 55, un autre passage sur les pensées que vous connaissez, car « mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, vous avez le topo, là, on a vraiment ici un contraste, mais j'aimerais amener quelque chose d'important. En Jésus-Christ, qu'est-ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16? Lorsqu'on est régénéré, la Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ. Nous sommes renouvelés, transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et contrairement à l'homme naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui ne comprend rien, ou à l'homme charnel qui est lent à comprendre à cause de la faiblesse de sa chair, on va voir ça après-midi dans le message d'après-midi. L'homme spirituel, au contraire, il comprend tout. Il discerne les choses. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et c'est par l'Esprit de Dieu, par la pensée de Christ, qu'il peut y arriver. Et je termine mon introduction avec une dernière chose. Vous savez, si vous êtes ici puis vous êtes confus par rapport à tout ce qui est spirituel, que pour vous c'est lointain, c'est du verbiage, c'est des choses qui ne sont pas vraiment concrètes, c'est probablement parce que vous n'avez pas été éclairé par Christ, la lumière du monde. Christ, ça nous dit qu'il est la vie, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut mettre la lumière sur votre vie. Si vous êtes encore sans Christ, écoutez aussi ce passage. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça, c'est Jean 3, 18, je continue jusqu'au verset 21. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est ma prière que s'il y en a ici qui sont encore dans les ténèbres, qu'ils puissent venir aujourd'hui à Christ, la lumière qui illumine nos pensées. Et pour les enfants de Dieu ici, j'ai 3 choses que j'aimerais qu'on considère dans notre texte ce matin. 3 révélations de Christ, la lumière qui révèle nos pensées. D'abord, dans les versets 1 à 3, La première chose que notre texte nous révèle, c'est que le secours humain est vain. Le secours humain est vain. Regardez ce que ça dit au verset 1. Écoutez cette parole, génisse de Bassan, qui est sur les montagnes de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Déjà, on voit l'expression génisse de Bassan pour référer aux femmes de cette région, qui est une région qui était fertile. Et qui était, donc les gens à cause de ça vivaient dans l'abondance, ils se voyaient bénis de Dieu, il y avait du luxe et tout ça. Et donc ces personnes-là, les femmes ici en question, se croyaient en sécurité. Croyaient que tout était beau. C'est pour ça qu'elles avaient une attitude désinvolte et même agressive. Ça dit qu'ils opprimaient le misérable et qu'ils écrasaient les indigents. C'était l'attitude qui ressortait de cette fausse sécurité qu'elles avaient. Puis leur sécurité, c'est devenu leur identité. Génisse de Bassan, c'est comme vraiment ici l'idée de la prospérité, parce que dans une société agricole, des vaches comme ça qui sont fécondes et qui se reproduisent, qui sont dans un beau pays où est-ce qu'il peut avoir du pâturage et tout ça. C'est une image ici de cette sécurité terrestre à laquelle ils s'identifiaient. Mais la réponse de Dieu est intéressante. Au verset 2, il dit, « Le Seigneur l'Éternel a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse de l'Éternel. » Pas exactement la sécurité à laquelle elles aspiraient. Mais ici, qu'est-ce que Dieu fait? Il répond à ce qu'eux, ils s'identifiaient à leur confort, leur luxe. Puis Dieu lui-même s'identifie comme étant le saint. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré dans sa sainteté. Et c'est sa réponse à cette vanité du secours humain. Parce que ces personnes-là et les femmes qui sont identifiées ici avaient une fausse sécurité. Qui ne pouvait pas les épargner de la conséquence de leur orgueil, puis de leur incrédulité, puis du jugement imminent dont Dieu leur révèle, dont il est question dans le livre d'Amos. Et ça dit ici, au verset 2, que Dieu l'a juré par sa sainteté. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il jure par sa sainteté, c'est-à-dire, je pourrais le dire autrement, je le jure, moi qui fais les choses comme personne n'est capable de le faire. Je le jure, moi, l'incomparable. Je le jure, je vous le dis, c'est certain. Je vais faire ce que personne n'est capable de faire. Quand on pense à sainteté, on doit penser à ce qui est totalement à part, une catégorie dans laquelle on ne peut rien rentrer pour comparatif. Dieu est saint, il est incomparable. Et pourquoi c'est important? Parce que Dieu est le seul qui délivre, qui libère vraiment, qui est vraiment la source de réelle sécurité. Et pourquoi je prends le temps d'expliquer ça? Pourquoi? Parce qu'encore de nos jours, savez-vous que le livre d'Amos, qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, mais il est encore vraiment d'actualité. Ne sommes-nous pas dans un monde où est-ce que même lorsqu'on a perdu pas mal de sécurité dans les dernières années, mais ouf, le chassé le naturel est revient au galop, tout le monde retourne à cette fausse sécurité, chrétien et non-chrétien inclus, et le bal recommence. Mais j'aimerais vous dire que le secours humain, qu'il soit religieux, qu'il soit de la psychologie moderne, de la psychologie populaire, de la médication, des plaisirs du monde, toutes ces choses, c'est un secours vain. C'est pour ça qu'on a besoin d'être convaincu par le Seigneur lui-même que le secours de l'homme est vain. Et là-dessus, je vais amener quelque chose d'important. La plus grande attaque en ce moment sur notre société et sur le corps de Christ, il y a des années, c'était sur est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu et tout ça. Et là, il y a un autre angle sur lequel il est attaqué. La plus grande attaque en ce moment, c'est par rapport à la suffisance de la parole, la suffisance du secours, de l'aide de Dieu versus le secours de l'homme. Et je vous dis, c'est tellement important. La question aujourd'hui, c'est est-ce que la parole de Dieu, elle est suffisante pour tous les problèmes de l'homme ou seulement pour certains, pour d'autres, il faut aller voir des experts. Je vous laisse répondre dans vos cœurs avec ces versets que j'ai retenus. Puis je pense que la parole est claire. Exode 15, 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, Dieu de louange, opérant des prodiges? » Exode 8, 6. Il répondit demain, et Moïse, il dit, « Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. » Dieu voulait prouver qu'il n'y avait pas de Dieu comme lui, puis... Pensez-vous que Dieu a changé d'idée là-dessus? Ah, là, dans le monde moderne, c'est vrai, là, je vais laisser la compétition prendre le dessus un peu. Non, Dieu n'a jamais rentré là-dedans, puis il ne va jamais non plus rentrer parce qu'il est saint, il est le Dieu tout-puissant et nul. Il n'y a pas de sagesse devant l'Éternel, il n'y a pas de conseil. La seule chose qui est bonne, c'est de fermer notre bouche devant l'Éternel. Et là, dans Samuel, au chapitre, dans 2 Samuel, au chapitre 7, verset 22, ça dit « Que tu es grand ». Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. J'espère que la réponse est claire dans chacun de nos cœurs, que Dieu, sa parole, est suffisant pour tous les problèmes de l'homme. Le problème, des fois, c'est juste qu'on ne sait pas comment s'y prendre, mais tout est là. Dieu est un Dieu personnel, il est suffisant. Et donc, le secours humain est vain. Ça m'amène à la deuxième révélation de notre texte dans les versets 4 et 5. La volonté humaine est vaine. Regardez les versets 4 et 5. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Il faut comprendre ici qu'est-ce qu'il y en est, je vous explique. D'abord, quand ça parle de Bethel et de Gilgal. Bethel, c'est là où Jacob a reçu le rêve avec l'échelle de Jacob, où est-ce que Dieu a dit, je vais te bénir, tu fais partie des promesses messianiques et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un lieu important. Et Gilgal, c'est un autre lieu important parce que c'est là qu'Israël s'est circoncis avant d'entrer dans la terre promise. Donc, ces deux villes sont deux lieux de sanctification, ou si vous voulez, de consécration et d'identification à Dieu et à ses promesses. Parce que c'était ça autant pour Jacob que pour Israël avant de rentrer dans la terre promise, un lieu d'identification à Dieu et ses promesses. Mais remarquez comment Dieu dit, « Allez-y là, puis péchez. » On pourrait dire, « Ah, ils vont aller offrir... » leurs enfants sur des hôtels, ils vont aller se prostituer, tout ça. Mais quand on lit, on se rend compte que, ben non, ils offrent des offrandes, des dîmes, des sacrifices d'action de grâce, ils publient des offrandes volontaires, puis Dieu appelle ça péché. On remarque, bon, d'après le contexte général d'Amos, mais aussi avec l'expression « vos ». Quatre fois. Offrez, remarquez bien, hein, vos sacrifices. Faites vos offrandes, proclamez et publiez vos offrandes volontaires. C'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. C'est quoi ici le péché? C'était l'hypocrisie religieuse. Ces gens-là avaient un grave problème d'hypocrisie religieuse. Ils allaient à ces lieux-là et ils faisaient ce que la loi exigeait. Ils offraient les sacrifices. En fait, toutes ces choses-là, c'est prescrit dans la loi. C'était tout là. Tout paraissait bien. Mais il ne le faisait pas dans une attitude humble et d'adoration comme le Seigneur le voulait. Il le faisait avec une attitude autosuffisante, une attitude de complaisance, et en plus, il ne le faisait pas à bonne place. Jérusalem est le lieu où est-ce qu'il devait adorer. Et donc, c'était une désobéissance flagrante. Et ça, savez-vous quoi? C'est un pattern qu'on voit dans la tromperie, le piège de la volonté humaine qui tout le temps va finir par se contredire. Autrement dit, ici, Dieu il dit, allez-y, puis péchez. Pourquoi, savez-vous quoi? Vous comptez des accroirs. Vous pensez que vous me plaisez avec tout ça. Puis ça dit aussi, je hais vos fêtes, vos solennités. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient tout ça, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Ils voulaient se donner bonne conscience, mais il n'y avait pas un désir pour Dieu lui-même. Ils faisaient des choses, mais ils ne recherchaient pas l'Éternel pour qui il est. C'est ça que Dieu dénonce. La volonté, la vanité de la volonté humaine, il était bien motivé. Mais pas pour Dieu lui-même, pour leurs affaires, leur façon d'adorer ce qu'eux voulaient. Et là-dessus, je vais vous partager quelque chose. Dernièrement, je vais mettre la face des gens ici.
Dernièrement, tu sais, des fois, on a vécu des affaires dans le passé, puis ça nous fait revenir des choses, puis c'est pas tout le temps des bons souvenirs, c'est un peu un goût amer. Dernièrement, j'ai vécu ça. Dave, tu vois souvent, tu sais, les controverses de Bib qu'il y a eu, puis ça, puis en tout cas, fait que là, pour ceux qui ne savent pas, cette semaine, demain c'est le 12, ouais, demain je pense jusqu'à mercredi, c'est la conférence nationale des pasteurs à Vancouver. C'est pour ça que Camille va à Vancouver, ça revient qu'il est là. C'est là qu'on a vu en 2019. Puis, quelqu'un écrivait à ce sujet-là, puis quand il écrit ça, j'ai dit, ce monsieur-là, avec ce qu'il dit, puis l'attitude dans laquelle il dit, il y a la raison pourquoi beaucoup de jeunes veulent plus rien savoir, soit de son genre d'église ou même des fois, carrément, des églises en général. Je vous explique. Le monsieur n'était pas content, puis, OK, je vais vous donner le contexte. Ces deux jeunes-là, quand même, mettons, fin trentaine, début quarantaine, deux jeunes pasteurs, qui sont les autres, les co-hôtes de la conférence cette année à Vancouver, les deux ont implanté une église dans cette région-là, séparément, mais là, ils se joignent leurs efforts, puis ils font ça dans l'église d'un, où est-ce qu'ils peuvent, ils ont assez de place pour tout le monde. Et, bon, disons-le, il y en a un qui prend plus une tendance, bon, que ce pasteur-là qui n'était pas content, appelé émergente, je dirais, tendance plus contemporaine. Et là, il dénonçait ça, puis là aussi, il s'insurgeait, là, que, ah, là, si tu prends pas telle version de la vie, c'est pour ça que tu t'éloignes, puis tout ça, puis bon. Puis, là, je lisais ça, puis, bon, premièrement, je suis d'accord, de dire, les petits comprimés amènent à des grands déserts, puis c'est pas que je dis que le gars... C'est une bonne décision ce qu'il prend. Fait que je comprends d'où ce qui vient et tout ça, mais voici le point que je veux amener par rapport à la religiosité et par rapport à notre texte ici. C'est que le monsieur, avec plein de bonne volonté, voulait dénoncer un problème. Mais je crois qu'il était aveugle sur l'évident. C'est-à-dire que pour lui, le problème, c'est un manque d'orthodoxie. Mais je me rappelle, et pour l'avoir vécu en 2019, le plus grand problème qui nous guette, c'est pas le manque d'orthodoxie que tant le manque de vie. Ceux qui étaient là, là, moi, la conférence, ça a fini vraiment en queue de poisson, parce que la parole a été prêchée avec cœur, avec clarté. L'appel a été lancé pour prier pour notre pays, simplement, puis il y a eu zéro réponse. Zéro. Il y a un qui a prié, a juste dit « Au secours, Seigneur! » Ça a fait une douche froide. C'est... Puis pour moi, c'est ça le problème. OK, c'est bien d'avoir, tu sais, des convictions et tout ça, mais si on n'a pas la vie, ça sert à quoi? Puis, ce monsieur-là, pourquoi je pense qu'il était plein de bonne volonté en écrivant ce qu'il écrivait? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a écrit. Mais voici c'est quoi le problème fondamental. Il avait de la bonne volonté, mais enfin, qu'est-ce qu'il disait? Il proclamait l'Évangile par les œuvres, pour la sanctification, pardon, par les œuvres. C'est-à-dire, fais ceci ou fais pas ça, puis tu vas vivre, puis ça va. Alors que qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Puis c'est quoi le grand verset qui est dans l'Ancien Testament, qui est repris trois fois dans le Nouveau? Le juste vivra par la foi. Le problème de ce monsieur-là, c'est pas dans ce qu'il disait, c'est dans ce qu'il ne voyait pas, puis qu'il n'a pas dit. C'est que pour lui, il s'arrêtait là avec ce qu'il voyait, puis il ne voyait pas au-delà. Il nous parlait comme s'il n'y avait pas d'espoir, il nous parlait comme si c'était nous qui avions l'espoir à faire de quoi pour prendre la main. Il n'y avait pas ce regard vers le Seigneur pour dire, « Seigneur, secours-nous, c'est toi qu'il faut qu'il fasse de quoi. » C'était la vanité du secours humain, comme à Gilgal et à Bethel. Et je vous dis, si on ne se repent pas de ça en tant que mouvement, qu'église, on s'en va droit vers notre destruction. Tout beau, clean cut, mais sans vie. Et ça m'a brisé le cœur, je dois vous dire, parce que... N'est-ce pas que Jésus a dit, avant de ressusciter Lazare, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Je pense que nos églises, les pasteurs, sont motivés à voir la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas leur gloire. Mais il y a ce piège, cette tromperie, d'avoir plein de bonnes volontés, mais de passer à côté de l'essentiel. Et là-dessus, je vous amène tout ce que je viens de vous dire là, ce qui est dans notre texte ici, dans les versets 4 et 5. En contraste avec comment... Tu sais, je vous dis que
la pensée de Dieu jette la lumière sur nos pensées. Tout ce que je viens de vous dire là, là, gardez ça en mémoire, puis mettez ça en contraste avec ce que Jésus a dit dans le jardin, lorsqu'il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au moment le plus sombre de sa vie sur terre, le moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité, Jésus a jeté la lumière de sa pensée, totalement désintéressé, dévoué, en anglais on dit « selfless », il n'y avait pas de volonté propre. Il jette la lumière sur notre égocentré. Chacun cherchait sa façon, tout le monde l'a abandonné, l'humanité le rejetait. Puis lui, à ce moment-là, il ne prie pas pour lui-même sa volonté, mais pour celle de son Père. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que la pensée régénérée lorsqu'on est un enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous, je le répète, nous avons la pensée de Christ. On prend plaisir à ces choses. On prie comme Jésus dans le jardin. « Seigneur, j'aimerais bien ça, telle affaire. J'aimerais donc pas avoir à souffrir. » Ah, mais pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est l'Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est pas vous. C'est Christ en vous qui prie comme ça. C'est pas dans la nature humaine. C'est pas dans notre disposition naturelle d'être comme ça, de prier comme ça. Et de cette manière, à cause de l'Esprit de Dieu, on peut faire le choix conscient de faire la volonté de Dieu face à l'attrait de la volonté humaine. De faire les choses à notre façon. Et ça, ça veut dire de s'humilier sous la main de Dieu, sous son autorité. Et je vous dirais là-dessus un avertissement tellement important qu'il faut comprendre. Le plus grand ennemi de la volonté de Dieu dans une église, ce n'est pas les rebelles qui veulent rien savoir puis qui tournent leur dos au Seigneur. Le plus grand ennemi de la volonté de Dieu dans une église, c'est celle de ceux qui sont motivés, qui veulent faire ce qui est de mieux, mais qui, dans la subtilité de la tromperie, le veulent à leur façon, arrangent les choses parce que pour ne pas souffrir, pour ne pas que ça soit en dehors de leur zone de confort, puis ils résistent. Ou pour le dire autrement, la volonté têtue, religieuse, même si elle est empreinte de noblesse, toujours, ça vient de la chair. La chair, qu'elle paraisse bien, qu'elle paraisse mal, c'est toujours la chair qui ne peut pas plaire à Dieu. Mais là où est-ce que c'est le plus trompant, c'est que si c'est rebelle, on dit, ben c'est sûr, c'est pas la volonté de Dieu. Mais quand ça paraît bien, c'est moins évident que c'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est un monsieur-là qui a écrit, moi je vous dis là. Il pensait vraiment écrire selon la volonté de Dieu, mais il était trompé, il voyait pas le problème. Et à cause de ça, il en était victime. Et là, ça m'amène au troisième point. Non seulement le secours humain est vain, la volonté humaine est vaine, mais savez-vous que même la repentance humaine, elle est vaine? On va lire les versets 6 à 11. On les a déjà lus, mais je veux qu'on prenne le temps de les relire. Et ça dit, je vous ai, ici c'est l'Éternel qui parle. Hein? Et moi, je vous ai envoyé la famine dans les villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu de la pluie, un autre ne l'a pas reçu, s'est desséché. 2-3 villes sont allées vers une autre ville pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai envoyé parmi vous la peste, comme l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Comprenez-vous le message? Dieu voulait les ramener. Dieu les chantait dans son amour. Mais malgré cela, ils n'ont pas voulu revenir à Dieu. Comparons ça à ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 9 et 10. Paul qui dit, je me réjouis à cet heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on se ne repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est le même pattern dans les deux passages. Et ici, dans Amos, il y a les « malgré cela » qui sont répétés à 5 reprises, c'est-à-dire le châtiment de Dieu. Malgré tout ce que Dieu a fait, malgré cela, ils ne sont pas revenus à moi. La repentance, selon l'homme, c'est d'avoir des remords, de ne pas être content, mais de rester dans notre état. La repentance, selon Dieu, c'est simplement ça, revenir à Dieu, être restauré par lui. Oh, quelle leçon on a tirée de ça ce matin! Savez-vous que la puissance du remords peut nous tenir longtemps dans le cycle repentance, tentation, péché, remords, repentance, tentation, péché, remords. Comprenez-vous? Le remords peut nous tenir longtemps là-dedans. C'est un désert où on tourne en rond, loin de la vie abondante et du repos qui est en Jésus-Christ. Le désert loin de Canaan. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'avec ce que Dieu nous envoie, et Dieu dans son amour fait en sorte que ça ne va pas tout le temps bien dans nos vies. Savez-vous, c'est parce que Dieu nous aime que c'est comme ça? Ça allait tout le temps bien, là. On est comme Israël. On se détournerait de lui, puis d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Quand tout va bien, puis on le voit en ce moment, même en général, la situation des églises, beaucoup retournent dans le désert. Mais pourquoi en est ainsi? Parce que lorsqu'on est dans le désert, au lieu de répondre à Dieu lorsqu'il nous châtie, on répond à la douleur et à l'inconfort qu'on voudrait donc arrêter à tout prix. C'est ça la repentance. Dieu va faire tout ce que ça prend là, pour que j'arrête de souffrir et que ça se mette à aller mieux. Mais c'est pas ça le but de Dieu. Dieu veut pas qu'on n'ait pas de problème dans nos vies et que tout aille bien. C'est sûr que c'est pas avec joie qui permet qu'on soit châtié parce qu'on est dur de comprendre. Mais c'est pas une fin en soi puis dire ok là je te châtie pour plus que tu aies de problèmes. Non, Dieu nous châtie pour qu'on revienne à lui, pas pour qu'on arrête de souffrir. Mais le problème, la repentance selon l'homme, c'est ok Dieu, je vais faire ce que tu me demandes pour arrêter de souffrir, pour plus qu'il y ait de douleur, pour plus qu'il y ait d'inconfort. C'est possible de vivre tout ça sans revenir à Dieu. Et là Dieu devient comme une espèce de réparateur métag universel là, qui fixe nos problèmes, qui enlève notre douleur causée par le péché. Puis on est toujours aussi misérable. Pourquoi? Parce qu'on a, oui, réglé notre problème, mais on n'est pas revenu à Dieu. On n'a pas sa joie, on n'a pas sa paix, on n'a pas tout ce qui est en lui. Mais aussi, j'aimerais qu'on voit, Dieu est patient. Voyez-vous comment? C'est le plus long du passage, c'est le gros du chapitre. Dieu, là, il a pris toutes sortes de moyens pour ramener son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu est incomparable. Dieu est saint. Et il voulait ramener son peuple à lui, même s'il était entêté. Et c'est là qu'on voit la différence entre la repentance qui vient de l'homme et celle qui vient de Dieu. Lorsque la repentance vient de Dieu, ça crée une réelle restauration. Ça crée une réelle rédemption dans la vie de la personne qui, comme ça, est exercée par le jugement de Dieu. Et tout ça nous amène au verset 12, où est-ce qu'on peut lire la première expression du verset 12, c'est « C'est pourquoi ». ».« C'est pourquoi je traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière que Sodome et Gomorre, encore Dieu parle de châtiment, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » C'est quoi que Dieu dit dans ce verset-là? Il vient de parler de châtiment, il vient de parler de toutes les choses qu'il a faites, puis là ici, qu'il va continuer à faire. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence d'un peuple qui persiste à vouloir chercher le secours dans ce que lui, il fait, à ne pas vouloir se soumettre à la volonté de Dieu et de se contenter des apparences, de ce qui peut paraître comme la volonté de Dieu, mais qui ne l'est pas. de ne pas prendre plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais juste d'avoir l'apparence, et de ne pas se repentir de son hypocrisie, sa fausse sécurité, sa fausse confiance. Et vous, qu'est-ce qui arrivait dans le passage qu'on a lu? C'est Dieu qui appelle son peuple à lui-même, à retourner à lui. Et c'est vous qu'on a ça dans la prière même de Salomon. Salomon, lorsqu'il y a eu la dédicace du temple, Salomon priait pour toutes sortes de situations qui peuvent arriver. « Seigneur, s'il y a la paix, si ton peuple prie dans cette maison qu'on vient de te bâtir, écoute-les, exauce-les des cieux. Si les ennemis s'en viennent, s'il y a ça, s'il y a ça. » Puis il nomme toutes sortes de possibilités de s'éloigner de Dieu, de châtiment de Dieu. Et là, dans ce contexte-là, on a la fameuse réponse de Dieu, où est-ce que c'est Dieu qui parle dans 2 Chroniques 7-14, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Savez-vous que c'est cet appel-là que Dieu lançait à Amos? Ben, à travers Amos, c'est aussi l'appel que Dieu nous lance maintenant. Parce que c'est quoi s'humilier? Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie. S'humilier, c'est s'humilier par rapport à arrêter d'essayer de se secourir nous-mêmes. Arrêter d'essayer de contrôler notre vie. C'est ça, s'humilier. Seigneur, je ne suis pas capable. J'ai essayé, c'est un fiasco. S'humilier par rapport à la réalité de notre fragilité, de notre incapacité de dire « Dieu, t'as raison, je suis pas capable, t'es le seul qui est capable. » C'est le point de départ. Puis ensuite, ça dit « s'il prie ». Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Quand on prie, là, on est en train de dire à Dieu, traduction, là, quand on prie, puis aussi pour l'expression qu'on cherche la face de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu? Dieu, je ne veux pas ma volonté, je veux la tienne. Pourquoi qu'on prierait? C'est, Seigneur, que ma volonté soit faite. Non, on prie, Seigneur, je veux ta volonté. Puis on cherche la face de Dieu parce que, Seigneur, je veux vraiment là, savoir que c'est ta volonté. Voyez-vous? Dieu qui nous amène à considérer la vanité du secours humain, la vanité de la volonté humaine, mais aussi pour nous amener à la repentance, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et les mauvaises voies, comme j'ai dit tantôt, souvent c'est évident, on dit « Ah, lui a un problème tel, tu sais, ça paraît, comme le nez d'en face. » Mais les pires mauvaises voies, c'est les plus subtiles. C'est celles qu'on excuse, c'est celles dont on est habitué. C'est sorti tantôt, quelqu'un a prié là-dessus. « Ah, Seigneur, il y a des idoles qu'on voit, c'est évident, mais il y en a qui sont beaucoup plus subtiles. » Ouais, c'est notre sœur qui priait ça tantôt. Savez-vous que c'est les choses qui nous prennent le plus? Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas... On n'est pas aux aguets. On n'est pas autant sur nos gardes. Et donc, on tombe plus facilement dans le piège. Et tout ça nous amène au verset 13. On a commencé avec, on termine avec, car voici celui qui a formé les montagnes, qui a créé le vent et fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Dieu parle après tout ça, après avoir appelé son peuple à la repentance. Et lorsque Dieu, comme ça, agit, il se révèle tel qu'il est. Ça dit qu'il change l'aurore en ténèbres. Vous savez que Dieu peut faire autant d'un bord que de l'autre. L'aurore, c'est quand le soleil se lève. Puis Dieu dit, change ça, parce que là, il parle de jugement. Vous savez aussi que même les temps les plus ténébreux, Dieu peut faire luire l'aurore. Même dans les temps dans lesquels on vit, on ne devrait pas être pessimiste comme chrétien. On est réaliste. On ne vit pas sur un petit nuage à dire « Ah, tout le monde est beau, tout le monde est fin. » Mais si Dieu règne, est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter? Puis si Dieu est qui il révèle être, pourquoi est-ce qu'on aurait peur? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Bon ou élevé, qu'est-ce qu'il peut me faire si Dieu est ma lumière et mon salut? Ce Dieu qui marche sur les hauteurs de la terre dans une position de supériorité, de suprématie, qui a le pouvoir sur le monde des ténèbres, qui est au-dessus, tout lui est assujetti, ce même Dieu nous fait connaître nos pensées. Et c'est là-dessus que je termine. Je mets cette pensée-là en parallèle avec ce qu'on lit dans Ésaïe 55. J'en ai lu tantôt une partie d'Ésaïe 55. Je vous en lis une autre partie. Ainsi, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On a arrêté là tantôt. Mais on va continuer. Regardez ce que ça dit au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et exécuté et accompli, pardon, mes desseins. Dieu jette la lumière sur nos pensées afin d'assujettir nos pensées à la sienne. Dieu veut que sa parole accomplisse sa volonté, accomplisse ses desseins, ses plans. Savez-vous ce que ça produit quand ça arrive dans nos vies? Dans notre folie humaine, on pense que Dieu, il veut nous rendre misérables. Ou que c'est... On résiste à Dieu. Okay? On ne se le dit peut-être pas consciemment, mais êtes-vous dans le club de ceux qui ne sont pas soumis à Dieu comme ils devraient? Là? On est tous dans le club, évidemment, de nature même. Mais écoutez la promesse qui vient par la suite. Lorsque Dieu, comme ça, a la suprématie dans nos vies, lorsque Dieu, sa parole est celle qui règne dans nos vies et que sa volonté s'exécute, ses plans s'accomplissent, ça nous dit ensuite dans Ésaïe 55, 12, « Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. » Je vais aller dehors dernièrement, ça doit être quelque chose pareil. Hein? « Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. » Autrement dit, si Dieu fait ce que lui juste peut faire, ça va être merveilleux. Pourquoi on n'y ferait pas confiance? Et je vous demande simplement la question, vous savez, j'aime ça terminer avec des questions. Des questions pour nous amener à réfléchir sur ce qu'on a considéré ensemble. Qu'est-ce qui caractérise ta vie en ce moment? Où reposent tes pensées, tes affections, tes aspirations? Est-ce que ça tourne autour du secours que toi, tu peux apporter, ta volonté, ta vaine repentance due au cycle du remords, péché, repentance, remords, péché, repentance? Et vous savez, c'est bon pour tout le monde, mais si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, le point de départ, c'est de le recevoir, lui, comme votre vie, comme le seul secours. Et Jésus a dit, il n'y a de salut, de délivrance, de secours en aucun autre nom, car aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel nous ne pouvions être sauvés. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas se sauver par nos œuvres, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui, vous devez vous confier dans ce que Jésus a fait. Pas dans ce que vous essayez de faire depuis tout ce temps-là, mais dans ce que Jésus a fait et lui seul. Et je m'adresse aux enfants de Dieu pour terminer. Dieu révèle de par lui-même ce qu'il est et ce qu'il nous dit. Il jette la lumière sur nos pensées. Et la question, c'est est-ce que tu prends plaisir à Dieu, à ses pensées? Est-ce qu'il est ton plus grand désir? Est-ce que la joie et l'aspiration de tes journées, c'est lui? Et savez-vous quoi? Dieu est bon pour illuminer nos cœurs, pour avoir la vraie réponse là-dessus. Mais c'est bon aussi d'aller à lui simplement, pour lui demander comme ça de nous sonder. Et avant de prier, je termine avec ma conclusion, mes derniers mots, ça va être les mots de la parole dans Lamentations 3. Écoutez ce que ça dit. Et je termine avec ça, ensuite je prie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il le rassasira d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. C'est notre prière, Seigneur, ce matin. Oui, on veut revenir à toi. Et tout le monde est ici ce matin avec un cœur bien disposé. Mais Seigneur, tu connais la tromperie de nos cœurs et tu connais les pièges dans lesquels on peut tomber sans même s'en rendre compte. Alors, illumine, Seigneur, jette ta lumière sur nos pensées. Là où, Seigneur, juste toi peux révéler la réalité des choses, parce que pour nous, on n'est pas suffisant pour ces choses. Et Seigneur, souvent pendant des années, on a été sans voir ce qui nous pendait au-dessus du nez. Parce que Seigneur, c'est spirituellement qu'on discerne ces choses. Alors Seigneur, accomplis ta volonté. Secours-nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, ta grâce. On s'en remet à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prier.